Radio Kapi. Oh, Kapi.
Soixante-seizième Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été à la tribune hier, mardi. Dans son adresse, il a parlé de ses réalisations dans les pays, du retrait responsable de la MONUSCO et aussi des crises en Afrique et de la zone de libre-échange économique africaine. Human Rights Watch interpelle l'État congolais sur son indifférence en rapport avec l'impunité des viols commis sur une vingtaine de détenues femmes et filles à la prison centrale de Kasapa en septembre 2020. De son côté, le ministère de la Justice a promis de réagir après qu'il sera imprégné du rapport de l'ONG. Enfin, dans cette édition, nous allons recevoir Abbé Aurélien Rukwata. Il est directeur de la commission diocésaine Justice et Paix dans les diocèses de Butembo-Beni. D'après lui, l'état de siège ne donne pas encore des résultats satisfaisants. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine s'est exprimé ce mardi à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment la pandémie de la COVID-19, le réchauffement climatique, le terrorisme en Afrique et dans le monde. Concernant la République démocratique du Congo, il est revenu sur ses différentes réalisations depuis son accession à la tête du pays. C'est entre autres la lutte contre la corruption, les antivaleurs et les violations des droits humains. D'autres aspects sur la RDC avec vous, Pascal Massirika.
Le président de la République a rappelé sur les plans économiques le retour en programme de la RDC avec le Fonds monétaire international, la croissance économique, la stabilité du franc congolais, la maîtrise de l'inflation ainsi que les accords signés entre le gouvernement congolais et des entreprises privées pour la relance de l'économie du pays. Félix Tshisekedi Tshilombo a souligné cependant que cette relance fait face à l'insécurité qui prévaut ces jours-ci dans l'est de la RDC. Il a indiqué que c'est pour mettre fin à cette gangrène qu'il a décrété l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Parmi les résultats de cette opération, il a énuméré la neutralisation et la reddition des miliciens, la récupération des armes et le démantèlement des réseaux des ventes des armes, la libération de plusieurs otages et la réouverture de plusieurs axes routiers. Le chef de l'État a fait remarquer que la fin de l'état de siège est conditionnée par la restauration d'une paix durable dans ces deux provinces.
Et puis le retrait de la MONUSCO de la RDC doit se faire de manière progressive, responsable et ordonnée. Tel est le vœu exprimé par le président de la République à la tribune des Nations Unies sur le retrait de la mission onusienne. Par ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi a ajouté qu'il faudrait que les Nations Unies dotent la MONUSCO et sa brigade d'intervention de tous les moyens nécessaires pour faire face à la guerre asymétrique à laquelle la RDC est confrontée dans sa partie est avant son départ. On écoute le chef de l'État dans cet extrait choisi par Alain Irung.
Un comité conjoint République démocratique du Congo MONUSCO élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée.
S'exprimant toujours à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, mais cette fois-ci sous sa casquette du président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué la récession dans laquelle plusieurs pays africains sont tombés à cause de la crise sanitaire de la COVID-19. Il a rappelé la nécessité d'une solidarité mondiale pour obtenir la relance économique des pays africains. D'autres aspects en rapport avec son action à la tête de l'Union africaine, avec vous Alain Irung.
Le président en exercice de l'Union africaine a martelé que l'insécurité grandissante dans la région du Sahel à cause des mouvements terroristes affiliés à Daesh fragilise la stabilité des jeunes démocraties. Les exactions de ces groupes terroristes qui ont coûté la vie au président tchadien Idriss Déby Itno sont très perceptibles au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria, a-t-il précisé. Félix-Antoine Tshisekedi a ajouté à cette liste le nord du Mozambique, aussi en proie à un groupe terroriste, sans oublier la région des Grands Lacs, secouée également par les groupes terroristes islamistes FDLR et ADF-MTM. Il a aussi évoqué tous les efforts qu'il a fournis pour apporter une solution pacifique à la crise entre l'Égypte et l'Éthiopie autour du barrage de la Renaissance. Félix-Antoine Tshisekedi a appelé la communauté internationale à se serrer les coudes pour mettre fin au terrorisme.
Concernant la réforme de l'ONU, Félix-Antoine Tshisekedi a réclamé pour l'Afrique 2 postes de membres non permanents et 2 autres de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec tous les droits que les autres nations, y compris celui de veto. Par ailleurs, le président en exercice de l'Union africaine a aussi parlé de la zone de libre-échange économique continentale africaine, ZLECAF, dans son discours. Aussi, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé les progrès accomplis par les pays africains en matière de bonne gouvernance et de démocratie face aux multiples crises politiques enregistrées ces derniers temps dans certains pays africains. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait que vous propose Alain Irung.
Les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leur responsabilité exclusive et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique. Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains n'ôteront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir.
Et puis parlons de cette journée internationale de la paix célébrée hier mardi 21 septembre. Au Maniema, l'ONG Akiza Binadamu demande à l'État congolais de jouer pleinement son rôle de maintien de la paix avec la contribution de la communauté internationale. Dans une interview accordée à Radio Kapi, Raphaël Upelele Lokenga, secrétaire exécutif de cette structure, demande aux groupes armés actifs dans cette province de déposer les armes. Il ajoute que s'ils ont des revendications, ils doivent les exprimer pacifiquement. Raphaël Upelele Lokenga est au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons toujours condamné l'effervescence des groupes armés qui écument surtout la partie orientale de notre province, où aussi on observe quasiment un déficit des agents de l'ordre commis pour le maintien de la paix, où on observe une démission de l'État. L'État ne s'affirme pas. Voilà pourquoi il y a lieu d'interpeller l'État sur sa mission de protéger, de sécuriser la population et ses biens. Sinon, nous risquons d'être dans une forme de république bananière où les plus forts dominent les faibles. Je voulais demander à nos frères qui ont pris des armes pour revendiquer leurs droits, de les faire sans violence. Il est vrai que les droits de l'homme s'arrachent, mais il y a quand même des mécanismes de revendication qui sont légaux et qu'ils puissent intenter des actions au niveau de la justice, au niveau d'autres mécanismes non juridictionnels pour qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits. C'est pour cela qu'il faut que l'État congolais puisse jouer pleinement son rôle avec la contribution, bien entendu, de la communauté internationale.
La dignité et la sécurité des prisonniers sont de la responsabilité de l'État. Il doit absolument se rassurer que toutes les personnes détenues, notamment des filles et femmes, sont à l'abri des violences sexuelles. C'est par ces mots que Human Rights Watch interpelle l'État congolais sur son indifférence en rapport avec l'impunité des viols commis sur une vingtaine de détenues femmes et filles à la prison centrale de Kasapa au mois de septembre de 2020. À un an de ces crimes, rien n'est toujours fait pour rétablir les présumées victimes dans leurs droits. C'est une des inquiétudes contenues dans le rapport publié lundi par cette organisation internationale. Thomas Fessy, chercheur à cette ONG pour la RDC, l'a dit au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons documenté les viols dont ont été victimes des dizaines de femmes détenues à la prison de Kasapa dans les 3 jours de violence de fin septembre 2020. Certaines ont été violées plusieurs fois par plusieurs prisonniers. Certaines ont contracté des infections graves ou sont tombées enceintes très probablement à la suite de ces viols. Ces femmes vivent avec le traumatisme de ces violences sexuelles. Elles ont besoin d'un suivi et d'une prise en charge médicale et psychologique qui soit adéquate. Nous constatons aussi que l'enquête sur ces viols généralisés est au point mort et qu'aucune enquête n'est ouverte sur les lacunes en matière de sécurité qui ont pu rendre l'émeute possible. Or, comme nous le révélons, les autorités provinciales et centrales avaient été alertées à plusieurs reprises que quelque chose se tramait. Une enquête rigoureuse devrait être menée pour que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue à ces dizaines de femmes. Ce dossier est emblématique au final du désintérêt de longue date des autorités pour les prisons du pays et les détenus qui y sont incarcérés.
Pour la chaire congolaise des droits de l'homme, le rapport de Human Rights Watch relance la problématique de la politique carcérale en République démocratique du Congo. Approché, le ministère de la Justice a promis de réagir après qu'il se sera imprégné du rapport de l'ONG. Et puis cette nouvelle mesure portant la fermeture de la faculté de médecine dans certaines universités de la RDC, notamment celle de Bandundu. Le recteur de cette institution universitaire, Abbé René Gambélé, s'en prend au Conseil national de l'Ordre des médecins qui, selon lui, n'a pas donné un rapport honnête auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il indique que plusieurs éléments n'ont pas été pris en compte par le rapport du Conseil de l'Ordre des médecins, notamment l'engagement à l'Uniban des professeurs docteurs en médecine. L'abbé Gambélé qualifie cette décision d'injuste et promet d'introduire, dans les heures qui suivent, un recours auprès du ministre de l'Issue à ce sujet. En attendant, il appelle les étudiants, les parents et tout le monde au calme et à garder espoir. Abbé René Gambélé, recteur de l'université de Bandundu, est joint au téléphone par Irène Mbouma.
Nous considérons que le rapport du Conseil de l'Ordre des médecins est un rapport qui était faussé. Nous avions déjà introduit un recours auprès du Sénat à ce sujet et donc nous allons utiliser les mêmes arguments pour montrer au ministre qu'il a été trompé. Il y a des éléments importants qui n'ont pas été pris en compte. Par exemple, le fait que nous avons des professeurs docteurs en médecine qui sont déjà engagés chez nous. Surtout, notre pouvoir, c'est aussi d'éclairer le ministre. Quand il est induit en erreur, cette décision nous touche. Nous la trouvons même injuste, non pas par rapport au ministre, mais par rapport au Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a pas fait un examen sérieux, minutieux et honnête. Pour le moment, nous introduisons ce recours. Nous invitons les étudiants, les parents, à garder l'espoir, à continuer à espérer. Nous allons porter à la connaissance du ministre dans un recours que nous allons introduire et nous gardons donc espoir et nous demandons à tout le monde de rester unis autour de ce combat pour que notre université et notre faculté de médecine puisse rester ouverte.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, au Nord Kivu, 14 nouveaux ménages sont sans-abri depuis la nuit du dimanche au lundi dernier à Kamandilak, dans le sud du territoire de Lubero, sur la côte ouest du lac Édouard. D'après la société civile locale, il s'agit des victimes des nouvelles inondations qui ont eu lieu dans la région. Les maisons se sont écroulées dans les quartiers Kiasenda et Mabanga après une forte pluie qui s'est abattue dans la zone. Florida Kahambu pour plus de détails.
Certaines victimes de ces inondations passent nuit dans 2 églises de la place, pendant que d'autres sont sous des tentes érigées dans la cour des mêmes églises. Sami Sakoumi, président de la société civile de Kamandilak, affirme que les quartiers Kiasenda et Mabanga sont les plus touchés. D'autres habitants, dont les maisons résistent encore face aux eaux de ruissellement qui viennent des collines, vivent la peur au ventre à cause d'abondance de pluie dans la zone ces derniers jours, rapporte la même source. Il ajoute que ces victimes s'ajoutent à plus de 400 autres familles qui demeurent sans abri depuis les premières inondations il y a de cela quelques mois. Contacté, l'administrateur du territoire de Lubero dit être au courant de cette catastrophe. Le colonel Donandon Damandonga promet faire rapport à sa hiérarchie en vue d'envisager une action du gouvernement à faveur des victimes. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont condamné hier mardi la tentative de coup d'État au Soudan, dénonçant les actes antidémocratiques mettant en garde contre toute ingérence extérieure pour semer la désinformation ou saper la volonté de Soudanais. Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a apporté son soutien à la transition démocratique en cours. Et puis au Cameroun, le parti d'opposition MRC de Maurice Kanto et plusieurs organisations camerounaises internationales demande la libération des personnes emprisonnées depuis un an suite aux manifestations empêchées du 22 septembre 2020. Sur quelques 500 personnes interpellées ce jour-là, 124 sont encore derrière les barreaux. La quasi-totalité n'ont pas été jugées et leurs avocats ont décidé de se retirer de la procédure.
L'invité.
4 mois après l'instauration de l'état de siège, la paix n'est toujours pas une réalité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est le directeur de la commission diocésaine justice et paix dans le diocèse de Butembo-Beni qui l'a dit. Abbé Aurélien Rouakata est notre invité dans cette édition. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur l'abbé Aurélien Rouakata, bonjour.
Bonjour.
Le monde célèbre ce mardi la journée internationale de la paix. Quel sens vous donnez à cette journée?
La paix, c'est une valeur dont tout le monde a besoin sans exception. Partout où l'on se trouve, on a besoin de la paix parce que c'est elle qui nous permet non seulement de vivre, mais de pouvoir aussi nous déployer dans notre existence pour faire autre chose. Sans paix, on ne peut rien faire.
Plusieurs régions de notre pays, particulièrement dans sa partie est, connaissent de l'insécurité depuis plus d'une décennie. Et là, nous voyons les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. D'après vous, pourquoi le rêve de recouvrer la paix par la population de cette région ne se réalise jamais?
Oui, sans pour autant prétendre avoir la réponse magique à cette question qui est fondamentale, je peux dire que nous avons effectivement besoin de la paix dans notre région. Et pourquoi nous en avons besoin? C'est parce qu'elle est absente. Nous pouvons observer depuis l'installation de l'état de siège qui était donné comme une réponse appropriée à cette manque de paix, à cette insécurité récurrente dans la région. Et nous pouvons constater malheureusement que 4 mois après, nous sommes loin d'atteindre cet objectif. Je pense que je ne suis pas pessimiste. Il suffit de voir ce qui se passe, des tueries partout, de l'insécurité urbaine, nocturne, diurne, où on entre dans les maisons des gens, on les insécurise. Les gens sont attaqués sur les routes et on ne peut pas dire que nous avons la paix pour le moment.
Vous êtes directeur de la CDJP et la paix, tout comme la justice, c'est votre credo. Que faut-il faire selon vous pour obtenir une paix durable dans cette région? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à tous les acteurs?
À tous les acteurs, moi je commencerai d'abord par l'État. Et nous étions contents de voir que tout le monde, à commencer par le chef de l'État, le premier ministre de notre gouvernement, la République démocratique du Congo, et sans oublier nos forces de défense et de sécurité, appuyés ou accompagnés par la communauté internationale, la MONUSCO, que tout le monde essaie de se pencher sur cette question, mais comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, le résultat tarde à venir. Et là, donc, si je peux faire des recommandations, c'est de dire, j'ai eu à écouter toutes ces autorités à différents niveaux, le chef de l'État, le premier ministre, nos forces de défense et de sécurité, la justice, tant civile que militaire, la communauté internationale, dire que non, bientôt nous aurons la paix, nous nous employons pour ça. Quant à moi, je peux juste suggérer à toutes ces autorités de pouvoir elles-mêmes évaluer leurs propos et surtout le constat qu'ils ont eu à faire face à la situation de manque de paix dans notre région, non seulement évaluer, mais aussi alors donner des solutions adéquates par rapport à ce qu'eux-mêmes avaient constaté. Il y a, à la suite de ça, des choses impératives qui doivent être faites. Lesquelles? Ceux qui doivent nous aider à remettre cette paix sont bien connus. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Tout ce qu'on a observé comme lacune au sein de ces forces doit être corrigé. Nous l'avons toujours dit et nous le redisons encore. Nous devons aussi appuyer ces mêmes forces, parce que c'est aussi des lacunes, leur logistique, et évaluer leurs actions sur terrain avec cette inspection de nos forces, donc de nos phares d'essai, pour voir si ce qu'on leur donne et ce qu'ils sont est en train de ramener la paix. Mais je dois dire tout de suite que nous sommes loin de cet objectif-là, malgré cet état de siège qui nous a été donné comme réponse à notre attente, voilà, plus de 4 mois. Je dirais aussi pour la communauté internationale, qu'il ne suffit pas de dire qu'il ne nous revient pas, nous, d'être au premier plan, que nous venons appuyer, de s'impliquer suffisamment. On nous dit qu'elle est en train de se réorganiser, de recevoir des contingents qui viennent pour le même objectif de protéger les civils. Je veux qu'elle-même aussi se remette en question et qu'elle voit si ce qu'elle nous dit comme discours est en train de se concrétiser par des actes où les gens attendent la paix. Autrement, il faut faire les choses non plus comme avant, on a manqué la paix, mais faire autrement pour essayer de voir si cette façon d'agir autrement nous ramène, nous conduit vers l'objectif, à savoir l'obtention de la paix.
Et aux communautés locales, autrement à la population?
À la population, hein. Là, je vais surtout souligner une chose, d'éviter d'être complice. Donc, nous devons nous-mêmes aussi nous remettre en question pour vérifier si dans nos actions, il n'y a pas des actions qui perturbent cette paix.
Abbé Aurélien Roukouata, merci.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.